BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Comme tous les ans à cette période, France Télévisions bat des records d'audience, en tout cas pour ce qui est des chaînes France 3 et France 2 avec le Tour de France. On en parle donc avec vous, Daniel Bilalian. Je disais comme tous les ans, et c'est une routine quasiment, vous-même vous le dites, hein, vous dites, ça n'est pas inattendu de notre part ce succès d'audience. Est-ce que c'est compliqué tout de même de se dire, bon, un, comment se renouveler? Deux, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Alors qu'on sait que quoi que vous fassiez, à la grosse, hein, je caricature un peu le trait, mais quoi que vous fassiez, ça va être un succès d'audience.
Non, mais je vais peut-être vous décevoir, mais je pense que, en fait, on nous demande pas toujours beaucoup plus. On fait toujours beaucoup plus pour être au fait de la technique, des nouvelles demandes. Mais en fait, je pense que ce que les gens attendent, c'est que ça ait lieu. Simplement chaque année. Parce que le Tour de France, en dehors de l'aspect commercial, c'est pas une compétition sportive. C'est un grand moment de joie de vivre entre Français.
Le redécouvert du pays.
Vous savez, les Français se demandent qui ils sont, etc. Ben, voilà, pendant le Tour de France, ils se disent, voilà ce que nous sommes. Nous sommes un beau pays, avec des sites extraordinaires, des régions fantastiques, avec des routes nationales, avec des gens au bord de la route, avec des braves gens. Parce que c'est le public du Tour de France, à quelques exceptions près, il y en a toujours, c'est un public de braves gens, familial, etc. Leur grand-père les amenait, leur père les amenait, ils amènent leurs enfants. C'est un moment de joie de vivre simple entre Français.
Alors, pardon de la comparaison, ce qui va peut-être pas vous plaire. Est-ce que le Tour de France, c'est pas le Jean-Pierre Pernaut de France 2 et de France 3?
Oui, c'est pas péjoratif. Vous savez, Jean-Pierre Pernaut, depuis 30 ans, domine les journaux de 13 heures. Moi, j'aurais bien aimé être à sa place. C'est un très grand journaliste. Non, c'est une comparaison qui me fait plaisir.
C'est tout à fait ça, on est dedans.
Oui, on est dedans, avec la technicité en plus. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, sur un événement comme celui-là, il faut chaque année être au goût du jour de la technique, entre la HD, la 3D, etc. etc. Désormais, donc, les réseaux
on va y venir.
Du numérique, et chaque année apporter quelque chose, un nouvel élément technique. Cela dit, je pense que sur le plan technique, on est actuellement... pratiquement à ce qui se fait de mieux, quoi. Je veux dire que le Tour de France, c'est pas un reportage, c'est presque un film. Vous avez 5 caméras sur les motos, 2 hélicoptères. Vous suivez ça l'après-midi comme un film.
C'était l'autre partie de ma question. Est-ce qu'il n'y a pas également, dans ce Tour de France, dans ces 2 semaines, 3 semaines, la démonstration de ce que France Télévisions est capable de faire?
Bah, écoutez, oui. Ça prouve quoi? Ça prouve que l'entreprise publique qui est la mienne est une grande entreprise de télévision et qu'elle est, j'allais dire, au goût du jour et qu'elle n'a rien à envier aux autres, même peut-être parfois donner l'exemple.
Alors, il y a, vous le disiez, le côté nouvelle techno qui forcément aujourd'hui est un passage, c'est quoi d'ailleurs? C'est un passage obligé, c'est un passage un peu complexe, c'est un passage, comment est-ce que vous pourriez qualifier?
Bah, c'est obligé. Obligé parce que la technologie s'invente tous les jours, qu'aujourd'hui sur les réseaux, sur notre réseau internet France TV Sport, nous sommes obligés, mais nous le faisons, j'allais dire, de bon cœur, mais nous sommes obligés, n'ayons pas peur des mots, de faire des produits différents pour attirer un public plus jeune qui délaisse parfois la télévision dite classique pour aller vers d'autres médias. Par exemple, vous avez maintenant, depuis 2 ans, les 5 caméras des motos qui tourne en permanence et vous pouvez
faire votre propre
réalisation. Et si vous n'avez pas envie de voir sur la télévision celui qui est en tête, si vous avez envie de voir celui qui est derrière, eh bien vous pouvez jouer du site internet de France Télévisions.
Ça vous demande concrètement des moyens supplémentaires?
Bien sûr.
Important.
Ça demande des moyens.
Parce que ces 5 caméras, elles y sont de toute façon.
Elles y sont, mais disons qu'avant, ces caméramans, 4 sur 5 étaient au repos, enfin au repos, continuaient à rouler mais ne filmaient pas. Là, on continue à filmer en permanence. Donc, c'est un supplément de travail. En termes technologiques, c'est aussi un supplément. Et puis ensuite, il y a tout ce que j'appelle, j'allais dire, les visites sur notre site internet. On a eu
40% de plus, c'est vrai.
45% de plus, on est à
France TV Sport. Hein.
Voilà, sur France TV Sport. Voilà. Donc, on est à un niveau très important. Sachant que, effectivement, les visites sont de plus en plus importantes au moment des grands événements par rapport à des moments plus routiniers.
Et la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est comment monétiser tout ça maintenant? Est-ce que vous y arrivez?
Bah alors, la publicité sur le net, c'est un problème. Je veux dire, tous les journaux en font. Elle est effectivement aujourd'hui, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je sais qu'elle est beaucoup moins bien payée que la publicité sur le papier ou à la télévision dite classique, mais c'est quelque chose qui est indispensable et qui va devenir de plus en plus important. Alors, est-ce qu'on arrivera au même revenu publicitaire sur ces sites? Je ne le pense pas, mais en tout cas, ce sera un complément très important. D'autant que nous, comme nous n'avons pas la possibilité de faire de publicité après 20 heures, sur nos sites, la situation légalement n'est pas la même.
C'est autre chose de bataille d'ailleurs, en ce qui concerne le foot, mais on va en parler dans un instant. Est-ce que, mine de rien, aujourd'hui, cette publicité, c'est quoi? C'est 15% de
15% environ,
des recettes,
oui,
c'est ça?
Oui, des recettes, oui. Sur une affaire comme le Tour de France, vous avez en télévision globale, peut-être 10 millions de chiffres d'affaires. Je ne parle pas de bénéfices, mais de d'affaires sur un produit comme celui-là. Il faut savoir que sur un des droits sportifs, quel qu'il soit, et quelles que soient les chaînes, les confrères comme nous-mêmes, vous ne vous remboursez jamais à l'euro pour l'euro. En fait, vous vous remboursez parce que, un, vous faites de l'audience.
Gagner une part de marché, en fait.
Donc, vous faites gagner en part de marché la chaîne qui diffuse, et donc à la fin de l'année, cette chaîne, elle peut avoir gagné 1 ou 2% de part de marché, qu'elle va vendre globalement, sa régie va vendre à l'ensemble
des annonceurs potentiels. 17% ou 15% de part de marché.
C'est ce qui était arrivé sur les Jeux Olympiques de Londres, en l'espace de 15 jours, France 2 avait gagné 1% de part de marché sur l'année.
Mais donc, est-ce que demain, là on en est au balbutiement, c'est un bien grand mot, on en est au début de cette diffusion donc via les nouveaux supports. Mais est-ce que demain, ces médias peuvent vous permettre tout de même de mieux rentabiliser un événement sportif quel qu'il soit?
C'est possible. Moi, je le dirais de deux façons. Un, parce qu'effectivement, en fonction du nombre de visiteurs, le chiffre d'affaires publicitaire va augmenter parce qu'on va pouvoir le montrer aux clients. Et deuxièmement, je vais vous dire, dans un autre sens, c'est que les plus jeunes qui ont quelques mal à regarder la télévision dite classique vont sur le site internet, mais ça peut aussi les ramener vers la télévision classique et faire augmenter le chiffre d'affaires de la télévision classique. Je pense qu'il peut y avoir des bases communicantes.
Vous avez des études là-dessus ?
Non, mais c'est un phénomène nouveau qu'on analyse, c'est-à-dire plus on fait de transport sur le numérique, plus on ramène. Alors, ça n'est pas encore chiffré, mais plus on ramène des gens vers la télévision classique, parce qu'ils ont vu là et ils veulent revenir. Ça peut être un système de base communicant. Je suis pas sûr de moi, mais je pense que ça peut l'être.
L'investissement cette année, il a été supérieur à celui de l'année dernière en ce qui concerne le tour.
Non, le tour est à peu près calibré de la même façon. Un effectif de 200 personnes qui est lancé dans un forum quotidien et qui se promène à travers 3000 kilomètres. C'est en termes de production, c'est un produit très cher. On doit approcher la dizaine de millions. Parce que, vous savez, quand on parle des droits sportifs, justement, quand du sport, on parle toujours des droits, on parle pas de la production. Vous savez que le moindre match un peu élaboré de rugby ou de football, c'est 140, 150 000 euros de production. Et c'est pas parce qu'on veut faire les malins, c'est simplement que vous êtes dans les appels d'offres, tout est notifié, vous devez pour tel type de match, tel type de compétition, avant tant de caméras,
Donc là, la 3D, elle est gérée à l'avance.
Ah bah oui, voilà.
Avec Amaury, tout est géré.
Tout est géré d'avance et tout est planifié d'avance et tout est contractualisé avec le vendeur.
C'est eux qui vous mettent la pression pour aller de plus en plus loin?
Non, je vais vous dire, je veux pas faire preuve d'angélisme, mais ASO est un partenaire commercial, mais il y a de leur part et de notre part, autre chose, puisque ça fait très longtemps que nous travaillons ensemble, il y a une compréhension qui fait qu'il n'y a pas une pression particulière du vendeur par rapport au diffuseur. C'est pas vrai. C'est pas vrai avec d'autres, mais c'est pas avec ASO, ça n'est pas le cas.
Alors, vous le disiez, il y a effectivement ce problème que les jeunes aujourd'hui n'arrivent plus à rester devant la télé. Si le Tour
de
France,
ce que je leur reproche.
J'imagine. Si le Tour de France est un vrai
si succès, je pouvais les obliger, je le ferais.
Si le Tour de France est un vrai succès, en revanche, Roland Garros, ça devient quoi, compliqué pour vous aujourd'hui? On voit que l'audience s'effrite. Je crois que vous avez perdu quasiment 5 points de part de marché année après année. Mais ça devient compliqué aujourd'hui?
Alors oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que aujourd'hui, carrément, le marché du sport, il est divisé en deux. Il y a des chaînes de sport, où le fanat de sport est abonné et regarde du sport. Et il ne nous reste plus à nous, je puis dire, chaînes dites historiques comme TF1 et nous, que les événements de sport. Par exemple, le Top 14 est diffusé toute l'année par Canal+. Nous co-diffusons la finale. La finale, les gens viennent la voir chez nous. Parce que c'est une fête, parce que ça se fête entre amis, parce que c'est avec les copains.
Mais on est quand même habitué, il y a quand même une tour de destination chez vous.
Le gratuit, oui, non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, Roland-Garros souffre de la démultiplication des tournois. Il y a trop de tournois. Il y a l'Open de Strasbourg, de Toulouse.
Et on les voit pas, ces tournois-là?
Oui, mais ça offre au public une multitude de compétitions qui désamorcent un peu
l'événement,
qui transforme l'événement en simple retransmission sportive. Alors, c'est pas tout à fait vrai, non. Puis cette année, par exemple, on a eu une bonne audience. Alors, l'audience de Roland-Garros, elle dépend beaucoup de la présence de Français en deuxième semaine, parce que nous avons ce que nous appelons, nous, les sportifs marseillaises. Hein, c'est-à-dire, s'il y a la Marseillaise au bout, ils regardent tout. Hein, voilà, ça marche. Et puis, le monde du tennis, pas nous, hein, le monde du tennis s'interroge sur la longueur, justement, par rapport aux jeunes, pour la trop grande longueur des matchs. Ils envisagent de revenir à 2-7 gagnants.
Vous êtes consulté ?
Ils nous en ont parlé, c'est pas nous qui déciderons. Parce qu'il y a des matchs, en 5-7 qui sont passionnants, il y a des matchs en 5-7 qui sont barbants. Mmh. Hein. Et le problème du tennis pour une chaîne dite généraliste avec des horaires, c'est que vous savez quand ça commence, et encore s'il pleut pas, mais vous savez pas quand ça se termine.
Donc, c'est un problème qui est mondial, c'est-à-dire aux États-Unis par exemple, l'US Open connaît le même problème d'audience. J'imagine que vous regardez ce qui se passe chez vos concurrents.
Oui, il se passe le même problème. Et alors, chacun le résout à sa façon, parce que je ne savais pas, ce que j'ai appris, c'est que contrairement au football où dans le monde entier on joue 90 minutes, en tennis, chaque tournoi du Grand Chelem peut choisir son règlement. C'est-à-dire, vous pouvez faire un tournoi du Grand Chelem avec des matchs en 5-7 ou des matchs en 2-7 gagnants. Et ça, effectivement, je sais que le monde du tennis, en tout cas en France, y pense sérieusement. Ça n'est pas le cas aux États-Unis parce que vous savez qu'on est pratiquement la dernière chaîne généraliste au monde à diffuser un grand tournoi de tennis. Hein.
Parmi les événements de l'année, il y a eu le foot féminin.
Oui.
Et vous dites, je reprends mon propos, ne pas aller trop vite avec le sport en règle générale, le sport féminin. Est-ce que tout de même, là, vous ne regrettez pas d'avoir laissé à W9?
Non, on peut pas. Je veux dire, le problème, c'est que nous avons des finances qui sont ce qu'elles sont. On ne peut pas être sur tout.
Ce que je veux dire, pas très cher aujourd'hui le foot féminin.
Non, mais nous étions sur autre chose. Et puis, c'est quelque chose que nous avons manqué. Alors que nous faisons des matchs de la Coupe de France de football, nous faisons des matchs de rugby féminin. Ce que je veux dire par rapport à ces sports en devenir pour les femmes que sont le football et le rugby, il fallait y aller progressivement parce que si vous allez trop vite, vous vous trouvez devant un échec parce que les gens ne sont pas habitués, etc. Il faut donc y aller progressivement et sur des chaînes, c'est ce que nous avons fait avec France 4, pour lesquelles 500 000 téléspectateurs, c'est un succès. Mmh. 500 000 spectateurs sur France 2, c'est un échec. Donc nous y allons progressivement. L'année dernière, par exemple, la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby avec la France féminine a fait plus de 2 millions de téléspectateurs. Donc nous y allons progressivement parce que je crois qu'il ne faut pas aller trop vite sinon... par rapport même à mes responsables, aux patrons des chaînes, ils vont dire « Ah non, écoutez Daniel, c'est pas possible, on peut pas faire comme ça ». Donc y aller progressivement, parce qu'en plus, ces sports en devenir chez les femmes, notamment dans le football, sont peut-être très très bien organisés au niveau européen ou international, mais par exemple, le championnat de France de football est encore embryonnaire, le championnat de France de rugby féminine aussi est encore embryonnaire. Il y a plus de matchs européens qu'il y a de matchs, et plus d'équipes, il y a très peu d'équipes qui sont d'un niveau suffisant pour être diffusé.
France 4, c'est ce qui vous permet de faire des coups ?
Eh bien écoutez, France 4 était...
Le réservoir à coups.
Oui, voilà, c'est-à-dire que France 4 est indispensable dans la mesure où, d'abord, il nous a permis dans un premier temps de rentabiliser nos achats. Lorsque nous avions des achats, par exemple, Coupe Davis, jusqu'au quart de finale, il n'y avait pas une audience potentielle, mais nous avions les droits, nous avons mis sur France 4. Et puis, désormais, France 4 est devenu un réservoir très important diffuseur de sport dit en devenir, football féminin, rugby féminin, etc., etc., avec un public plus jeune, donc sur lequel nous pouvons avoir des espoirs.
Y a un sport que vous n'avez pas aujourd'hui, que vous aimeriez, sur lequel vous lorgniez tout particulièrement, parce que, après tout, soit ça peut être un coup, soit même un coup d'image d'ailleurs.
À vrai dire, non. Honnêtement... dans la mesure où ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les chaînes dites historiques comme TF1 et nous ne pouvons pas, contrairement aux chaînes thématiques de sport, nous lancer dans autre chose que du sport événementiel. Si France Télévisions, si l'actionnaire de France Télévisions avait voulu, mais ça, il y a 10 ans de ça, que nous ayons une chaîne d'information sportive, là, oui, nous serions beaucoup plus présents. Aujourd'hui, c'est trop tard. Le marché, il est partagé. La quantité, le volume sur les chaînes thématiques, les événements sur les chaînes gratuites dites historiques.
Vous continuez à plaider pour la publicité à la mi-temps des matchs de foot ?
Ben, on continue surtout, si j'étais tout seul, à plaider pour la publicité. Parce que, si vous voulez, ce qui a été terrible dans la disparition de la publicité, après 20 heures notamment, c'est que nous étions habitués, nous, collaborateurs de France Télévisions, à être payés et considérés sur nos succès ou nos échecs. Mm-hmm. C'est-à-dire une redevance, qui est un impôt direct qui va directement à France Télévisions, et vous êtes bon, vous avez beaucoup de publicité, vous êtes... Là, on est devenu allocataire de l'État, c'est assez difficile à supporter pour nous. Mais on s'y fait. Pourquoi est-ce que nous redemandons la publicité après 20 heures pour le sport? C'est que la suppression de la publicité, si je me souviens bien, l'idée, c'était d'avoir une antenne plus propre, plus classique, je ne trouve même pas les mots.
Plus quali, peut-être.
Oui. Le problème, c'est qu'à la mi-temps d'un match comme son nom l'indique, il ne se passe rien. Donc la publicité ne va pas déranger. Oui, non, mais enfin, fondamentalement, va pas dire. Et puis ça, et puis puisque nous avons beaucoup de demandes parce que nous n'en faisons pas assez, etc. Si on veut qu'on en fasse plus, il faut qu'on ait des rentrées d'argent supplémentaires. Donc pour avoir ces rentrées d'argent supplémentaires, faisons de la publicité à la mi-temps des matchs et nous pourrons être encore plus présents que nous le sommes sur les grands événements du monde sportif.
Bon, alors tout cela coûte cher, évidemment. Il y a un mot que vous avez prononcé à de multiples reprises depuis le début de cette interview, c'est le mot des droits. Il y a de nouveaux acteurs là qui sont arrivés. On a vu évidemment Discovery qui possède désormais 100% d'Eurosport. Il y a Maury. À tort ou à raison, mais n'empêche que c'est aujourd'hui un nouvel acteur. Bref, on a l'impression que ces acteurs se sont démultipliés. Est-ce que pour, du coup, un acteur comme vous, ça devient extrêmement compliqué aujourd'hui d'acquérir les droits ?
Ah mais, ça va devenir compliqué, je vais vous dire pourquoi, pour les acteurs nationaux, TF1 comme nous. Parce que si vous voulez, jusqu'à présent, avant l'arrivée de Bein et ça n'est pas une critique, l'arrivée de Bein et de Discovery, Eurosport racheté par Discovery américain, des vendeurs venaient en France vendre très cher, moyennement cher à TF1, à nous, à M6, à la marge, à Canal. Là, vous avez des acteurs, ce sont des multinationales. On a rejoint la sidérurgie, la métallurgie, l'automobile, le nucléaire, etc. Donc ce sont des gens qui, on l'a vu récemment sur le tennis par exemple, ont acheté pour Bein, a acheté pour 7 ans la Coupe Davis de tennis qui nous était vendue à nous au terme des contrats qu'on avait de 4 ans ou 5 ans. D'ailleurs, nous l'avons diffusé jusqu'à dimanche dernier. Désormais, ce vendeur-là, je ne le vois pas. Discovery a acheté les Jeux Olympiques 18-20. Heureusement, nous avions acheté 4 Jeux Olympiques de suite. On avait senti des choses à l'arrivée de Bein, 18, 20, 22, 24. Donc là, c'est pareil. Ce sont des gens qui vont éventuellement être obligés de remettre sur le marché, puisque ce sont des cryptés pour des télévisions en clair dans les pays où ils n'ont pas de diffusion en clair.
Au prix qu'ils souhaitent.
Pardon ?
Au prix qu'ils souhaitent.
Bah, à un prix à débattre. À un prix à débattre. Ils sont obligés dans les pays où ils... Parce que Eurosport a en plus des chaînes en clair dans certains pays européens. Hein. Bon, mais par exemple, en France, ils seront obligés de le remettre sur le marché et on discutera du prix, mais c'est un échange qui pourrait très bien ne pas aboutir. Donc, ce que je veux dire par là, et nous, ça nous pose un problème, on va poser le problème en termes de concurrence. Est-ce que c'est pas une forme de concurrence déloyale ? C'est-à-dire que les produits sportifs n'arrivant plus sur le marché... Est-ce que ça pose pas un problème au niveau européen ? C'est peut-être quelque chose qui peut concerner Bruxelles. Nous, on pense que Bruxelles doit se préoccuper du problème. On a commencé à travailler sur ce produit avec nos juristes. C'est-à-dire, est-ce que c'est tout à fait normal et légal que des produits comme ceux-là qui étaient avant proposés à la concurrence en général ne soient plus destinés, enfin qu'on ne les voit même plus apparaître.
Vous allez faire jouer la justice européenne ?
Ben, on essaye de voir si au niveau politique européen, c'est pas une manière d'écarter les télévisions européenne du champ des grandes attractions sportives.
Alors parmi les droits que vous avez perdus, la Coupe du Monde de rugby qui sera à la rentrée sur TF1, qu'est-ce que vous allez faire sur France Télévisions ?
On va faire contre mauvaise fortune bon cœur. On va en parler parce que nous sommes quand même la chaîne du rugby. Non, sur cette affaire-là, nous étions sur la dernière. Je dirais que cette fois-ci, je vais dire deux mots peut-être pas très sympathiques pour nos confrères de TF1. Nous pensions que, comme la dernière fois, TF1 qui avait acheté les droits allait les proposer en sous-licence à un acteur gratuit et un payant. C'est ce que nous avions fait en compagnie de Canal lors de la dernière Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Cette fois-ci, TF1, sans doute pour se rembourser ou je ne sais pas pourquoi, n'a proposé qu'une sous-licence à une chaîne payante. Donc nous n'avons même pas pu
participer aux enchères.
Vous dire que je l'ai très bien pris et que mon patron, mon président l'a très bien pris, je dirais non. Pour ne pas en dire plus.
Justement, votre président, changement de président, je crois que vous avez rencontré à deux reprises déjà Delphine Arnault. Elle a été sensible à vos arguments ?
Je pense que j'ai essayé de lui expliquer clairement quelle était notre situation. Je pense qu'elle l'a comprise. Le problème du sport, c'est que ça paraît toujours cher à l'achat. Et une fois que c'est diffusé, on se dit heureusement qu'on l'a. Ça me rappelle toujours cette affaire. Vous savez, quand TPS, qui était une chaîne qui diffusait le championnat de France de football, avait fait, il y a maintenant un certain temps, le bon prix. Et puis c'est Canal+, qui l'a payé trop cher. Et le directeur des sports de Canal+, de l'époque, Michel Denisot, disait « Oui, nous on s'est fait rouler, mais nous on l'a. » Et TPS a fermé 6 mois plus tard.
Donc, Delphine Arnault.
Donc l'essentiel, c'est d'expliquer qu'en sport, c'est toujours trop cher, mais on regrette rarement de l'avoir acheté.
Bon, on verra si l'argument a été entendu. Merci beaucoup, Daniel Bilalion, d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business dans le Grand Journal. Vous restez avec nous, bien évidemment, à suivre dans un instant le journal de l'écho. Puis juste après, on s'intéresse aux chiffres de l'emploi qui ont été publiés il y a maintenant une demi-heure. À tout de suite.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Dauba.
Avec ce petit mieux, semble-t-il, sur le front de l'emploi, même si on nous parle actuellement d'un changement de méthode de calcul, ce qui pourrait expliquer ces chiffres, en tout cas la stabilisation pour le mois de juin du chômage. On en parlait avec vous, François Roux, vous êtes le délégué général de Prisme Emploi. Prisme Emploi, donc, on résume rapidement, c'est
l'organisation professionnelle
qui regroupe
l'ensemble. Qui représente les agences d'emploi,
voilà.
Agences d'intérim, recrutement.
Quel regard vous portez là sur ces chiffres qui ont été publiés il y a une demi-heure maintenant?
On n'est pas surpris par ce chiffre parce qu'en fait l'intérim reprend depuis janvier. Donc en fait ça fait à peu près 6 mois que l'intérim est en légère croissance de plus 2,6% en moyenne sur l'ensemble du premier semestre. Et après 3 années de baisse consécutive, puisqu'on a perdu dans l'intérim 70 000 emplois en 3 ans, là on en a recréé environ 15 000 sur les 6 premiers mois de l'année. Donc quand l'intérim reprend, en principe, on stabilise le chômage 5-6 mois après.
Oui, c'est à l'intérim, en fait, c'est un indicateur avancé.
C'est l'indicateur avancé.
Sur quoi? Sur 6? Moi, j'avais lu jusqu'à 1 an.
Voilà, c'est entre 6 mois et 1 an, à peu près. Hein. Mais après 3 années consécutives de baisse, puisqu'on ne pouvait pas descendre en dessous d'un niveau de flexibilité, l'intérim, c'est la flexibilité. Les entreprises en ont besoin pour leur propre compétitivité.
Donc, il y a un plancher de l'intérim?
Il y a un plancher. Il y a, dans un pays comme le nôtre, en dessous de 500 000 intérimaires en équivalent temps plein, c'est quasiment plus possible.
Et là, on avait atteint ce plancher?
On avait atteint ce plancher, exactement. Donc là, il y a une légère reprise, qui n'est pas une reprise technique, qui s'appuie sur une légère croissance économique, puisque le PIB a connu une croissance sur le premier trimestre, on attend le deuxième trimestre, donc une légère croissance.
Alors, légère croissance, vous nous disiez, un indicateur avancé, ça veut dire que, mine de rien, il ne faut pas non plus s'attendre à une inflexion massive de la courbe de l'emploi.
Il faut s'attendre sans doute à une inflexion. Est-ce qu'elle sera très marquée? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, à partir du mois de septembre, il devrait y avoir forcément, puisqu'en fait, les mois de juillet et le mois d'août sont des mois très atypiques qui sont difficiles à juger. En revanche, le mois de septembre sera un mois clé. Et là, il est possible qu'il y ait une légère amélioration.
Durable, selon vous?
Alors, durable, ça, c'est une autre question. Il faut, pour une amélioration durable, il faut une croissance d'au moins
1,5.
Alors, pour l'intérim, c'est un peu moins. C'est dès 1%, ça commence à vibrer. Mais en tout cas, il faut 1,5% pour créer durablement de l'emploi.
Alors, le problème, quand on regarde de près les chiffres que vous avez publiés via le baromètre donc de Prisme Emploi, c'est que tous les secteurs ne sont pas sur le même pied d'égalité, notamment le BTP aujourd'hui qui continue encore et toujours à souffrir. Je crois d'ailleurs que c'est même le seul secteur en repli aujourd'hui dans l'intérim.
Tous les secteurs sont en croissance, commerce, industrie, services, transport, et malheureusement le BTP continue de baisser, on en connaît très très bien les raisons.
De manière sensible d'ailleurs.
De manière très sensible.
Moins 12,6%, hein, c'est ça?
C'est ça, à peu près, et ça c'est vrai depuis le deuxième semestre 2014, donc c'est vraiment une baisse, on en connaît les causes, désengagement de l'État pour des crédits des collectivités locales, détachement de travailleurs dans des conditions qui sont absolument illégales et qui donc viennent faire une concurrence déloyale en France. Il y a des mesures qui sont prises par le gouvernement, mais ils n'ont pas encore produit leurs effets. Donc le bâtiment est en crise précise sur ce sujet.
Pour tous les autres, donc plus 8,2% pour le commerce, qui se porte plutôt pas mal, plus 6% pour les transports, plus 4% pour les services, plus 4% pour l'industrie. C'est normal que le commerce réagisse en premier?
Alors ça, c'est une question nouvelle, parce que c'est la première fois, effectivement, que le commerce augmente. On a examiné ça. Il y a eu un impact des soldes relativement important. Il y a eu beaucoup de recours également dans la grande distribution à l'intérim. Et ça, c'est le signe d'une régulation du temps de travail qui était extrêmement difficile et donc qui conduit beaucoup de grandes surfaces à avoir recours à l'intérim. Ça, c'est évident.
Alors, on dit l'intérim, c'est bien beau, mais est-ce que derrière tout cela, il y a des CDD, il y a des CDI qui se créent? Quelles sont les études par rapport à cela?
Alors, l'intérim est un facteur intégrateur. C'est vraiment un vecteur d'intégration dans le marché du travail. Pour simplifier, vous avez 80% des gens qui rentrent dans l'intérim qui n'avaient pas de travail auparavant. Et 18 mois après, c'est l'inverse, vous avez 80% de gens qui sont au travail, soit en CDI, soit en CDD, soit en intérim, et plus que 20% qui sont au chômage. Donc c'est vraiment un système intégrateur et qui se transforme, quand l'économie va bien, relativement facilement, dans deux tiers des cas, à peu près, vers un contrat dans l'entreprise utilisatrice et en fait dans l'entreprise qui est notre cliente.
Qui s'inscrit principalement en intérim ? Des jeunes, des personnes plus âgées ? Quel est le profil type ?
Alors, il y a plusieurs profils types. Il y a les jeunes. Les profils types, c'est les transitions. C'est le jeune quand il cherche un premier job. Donc là, il peut choisir l'intérim pour choisir
toucher un peu
sa
à
voie,
tout,
choisir sa voie, choisir son entreprise, préciser sa demande en matière de qualification et de métier. Et nous, on forme les jeunes, hein, vraiment. Donc là, avec des contrats de qualification, des contrats de professionnalisation, pardon. Donc il y a une vraie formation pour les jeunes. Et puis après, il y a tous ceux qui ont une rupture de carrière. C'est-à-dire, en fait, lorsqu'il y a un plan social, beaucoup de gens qui se retrouvent sans emploi passent par l'intérim pour revenir vers le marché du travail.
Beaucoup de... Y compris des cadres ?
Ah oui, y compris des cadres, absolument. Il y a environ 30 000 cadres qui passent par l'intérim tous les ans. C'est un chiffre à peu près stable, qui est plutôt en croissance d'ailleurs. Les femmes qui reviennent sur le marché du travail après avoir élevé leurs enfants. Et puis des seniors, et là il y a une progression considérable du nombre de seniors qui reviennent vers le marché du travail via l'intérim pour soit terminer leur calcul de trimestre, les trimestres manquants, exactement, ou alors pour se rapprocher du monde du travail en cumulant parfois emploi et retraite.
Ça rassure l'employeur, mine de rien, l'intérim. Alors je pense, un à des jeunes et deux à des seniors, ça peut rassurer.
Ça rassure.
En disant, voilà, on va d'abord tester un intérim et puis on verra derrière si on embauche.
Alors, il y a deux choses. Il y a l'intérim période d'essai. Ça, c'est relativement classique. C'est-à-dire, en fait, avant de recruter quelqu'un en CDI, on prend quelqu'un en intérim et on le juge, on le jauge. Et donc ça, c'est une première version. Mais c'est de plus en plus un instrument de flexibilité. C'est-à-dire, en fait, ça permet à l'entreprise de voir si le poste lui-même est confirmé dans sa pérennité. Et donc, c'est souvent ce deuxième facteur qui est plus important que le premier.
Qui sont aujourd'hui les plus recherchés en intérim ? J'ai vu que les ouvriers qualifiés, par exemple, étaient en repli.
Oui, alors ça, c'est la cause du bâtiment. Il y a beaucoup d'ouvriers qualifiés dans le bâtiment et la chute du bâtiment a provoqué une baisse du nombre d'ouvriers qualifiés, alors que dans l'industrie, ils se maintiennent, ils sont même plutôt en croissance.
Donc aujourd'hui, globalement, qui est recherché ? Quel est le profil recherché par les différents employeurs ?
Alors,
ça dépend des secteurs, évidemment,
si on devait faire un
palmarès.
Alors, dans le palmarès, c'est toujours les métiers qui sont dits en tension, c'est-à-dire, en fait, là où on manque de qualifications. Donc, quelqu'un qui est dans l'aéronautique et qui est spécialiste de câblage, par exemple, celui-là, on le cherche. Et quand on le trouve, on essaie de le garder. Mais en tout cas, voilà un métier, en tout cas, très, très difficile à trouver. On a également des infirmières qui sont, là aussi, très, très friandes d'intérim parce que ça leur permet de choisir leurs horaires, de choisir leur bloc opératoire, parfois même leur chirurgien. Donc on a dans ces cas-là une sorte d'intérim choisi. C'est-à-dire, en fait, il y a environ 100 000 personnes en France, 20% des intérimaires, qui ont fait de l'intérim le mode d'exercice de leur métier.
Il y a, j'imagine, également des disparités en termes de régions. Certaines régions sont en repli aujourd'hui, d'autres en revanche progressent. Régions Picardie, Poitou-Charentes, Champagne-Ardenne, ce sont les trois régions en repli. Comment est-ce que ça s'explique ?
Alors, ce sont des régions qui sont peu industrialisées, et donc c'est la raison pour laquelle elles sont en baisse, alors que dans les régions qui sont beaucoup plus industrielles, comme le Nord-Pas-de-Calais, le Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Île-de-France, là, il y a une progression.
Avec la plus forte progression, on reste en Île-de-France ?
Non, c'est ce mois-ci, l'Île-de-France est à peu près dans le paquet des autres, dans la moyenne nationale. Mais en tout cas, en Île-de-France, il y a une prédominance de sièges sociaux. Donc, c'est une région qui réagit parfois un peu différemment de la province, parce qu'il y a précisément cet effet des sièges sociaux et moins d'établissements de production.
On parle beaucoup du coût, enfin, on en a beaucoup parlé, on en entend un peu moins parler, mais du fameux coût du travail et donc de la compétitivité. Quel est le coût du travail de l'intérim ? Est-ce qu'il y a un coût supplémentaire ? On dit souvent qu'on est mieux payé en intérim, mais pour l'employeur ?
Alors, pour l'intérim, déjà pour l'intérimaire, il a une indemnité de fin de mission de 10%, plus une indemnité de congé payé qu'il prend très rarement, donc il touche une prime, donc ça fait ça majore de façon faciale le salaire d'environ 21%. Et le salaire est celui du travailleur qu'il remplace. C'est-à-dire, en fait, l'intérimaire a un salaire de référence qui est l'égalité de traitement.
D'accord.
Donc ça, c'est pour l'intérimaire. pour l'entreprise, c'est le coût de l'intervention de l'agence d'emploi, puisqu'en fait, bien entendu, nous avons une marge qui s'est considérablement d'ailleurs écrasée au fil des années.
Elle est passée de combien aujourd'hui?
C'est un secret pour personne, parce qu'en fait, l'INSEE la produit tous les ans, elle est de l'ordre de 13% en moyenne, hein, alors ça dépend.
Elle était dans les grandes années, dans les années
fastes. Elle était supérieure à 20%, en moyenne. Il y a eu un vrai écrasement qui a été dû à un certain nombre de facteurs. Donc, le coût du travail, nous, on contribue à le réduire, précisément, en restituant un certain nombre d'aides qui sont prévues par le gouvernement, les allègements de charges sociales, les allègements du pacte de responsabilité, le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises, tout ça créer de l'emploi, parce que plus on diminue le coût du travail, plus mécaniquement on crée de l'emploi dans les bas niveaux de qualification, dans les bas niveaux de rémunération.
Ça a été compliqué d'ailleurs, puisque vous me parliez de marge réduite en ce qui vous concerne, ça a été compliqué d'ailleurs cette période. Alors, admettons que là, les choses repartent dans le bon sens. La période creuse pour les agences d'intérim.
Alors, les agences ont souffert, incontestablement. Ce sont des entreprises de services qui sont relativement souples, mais une réduction de marché de l'ordre de 20% telle qu'on l'a connue est évidemment un véritable problème pour les agences.
Ça se traduit par quoi? Des fermetures d'agences?
Alors, il n'y a pas eu de fermeture d'agence, parce que précisément, il y a eu une volonté de maintenir les services de proximité pour les entreprises et dans les bassins d'emploi pour les candidats à l'intérim et également au recrutement, puisqu'on fait aussi du recrutement pour le compte des entreprises. Et donc, on a connu cette diminution avec parfois difficulté, mais on en est sorti et donc maintenant, on est prêt à accueillir cette reprise et à accompagner le mouvement avec nos entreprises clientes.
Faut-il changer selon vous le code du travail? On en parle beaucoup également, on sait que c'est un millefeuille administratif quasiment incompréhensible. Est-ce que selon vous ce serait une bonne chose aujourd'hui de le simplifier une bonne fois pour toutes?
L'économie a besoin de flexibilité. Et nous avons, nous en France, la flexibilité la plus rigide d'Europe, voire du monde, puisque l'intérim est extrêmement encadré par des tas de réglementations, par des accords interprofessionnels.
Utile ?
Qui sont devenus obsolètes parce que tout ça se justifiait pleinement dans les années 80 où l'intérim était balbutiant. Aujourd'hui que les opérateurs sont matures, le marché est stabilisé, à peu près avec les éléments de conjoncture. Et donc aujourd'hui, il y a place pour une flexibilité qui est plus importante, et qui devrait être plus souple. Et si on arrivait à avoir un accord avec les syndicats de salariés qui ne sont pas faciles sur ce thème-là, autant on peut, en matière de formation professionnelle, en matière de protection sociale, travailler avec les syndicats de salariés, autant dès qu'on touche au code du travail, dans la partie contrat de travail ou flexibilité, là il y a des réticences qui sont très fortes, et nous avons créé, face à ces réticences, le CDI intérimaire, qui est tout nouveau, qui vient d'entrer maintenant dans la loi.
Donc ça fait un petit bout de temps quand même qu'on entend parler,
oui,
ça fait plus d'un an qu'on entend parler.
C'est juste, mais là il est rentré dans la loi et il va avoir quelques éléments, quelques améliorations sur lesquelles on va s'appuyer pour le développer, et donc on va avoir...
Alors, il faut quand même peut-être réexpliquer en deux mots de quoi est-ce qu'il s'agit.
En deux mots.
Et qu'est-ce que vous souhaitez, où est-ce que vous souhaitez l'amener?
Voilà, exactement. Donc, ça existe dans d'autres pays européens, en Hollande, en Allemagne, en Italie. Et donc, nous, on a créé le CDI intérimaire. Et là, il vient d'être assoupli, puisqu'on a supprimé le délai de carence, qui n'avait pas grand-chose à voir avec un CDI, d'une part. Et puis, on a permis un peu plus de souplesse. En deux mots, ça signifie que quelqu'un cherche un CDI. Nous lui offrons ce CDI. Et donc, il va être rémunéré de façon permanente par l'agence d'emploi. Mmh. Il va être intérimaire et il va faire différentes missions à l'intérieur de ce CDI. Donc, il a une garantie pluriannuelle sur l'emploi. C'est-à-dire, en fait, une sorte de flexibilité.
On rejoint presque les 100 000 personnes dont vous me parliez tout à l'heure, qui vivent de l'intérim à plein temps.
Oui, alors certains choisissent effectivement ce CDI. D'autres ne le choisissent pas parce qu'ils veulent conserver la liberté de choix de leur temps, de la gestion du temps. Alors que dans le CDI intérimaire, on est évidemment obligé d'avoir un certain taux d'employabilité. Il faut que les gens travaillent plus de 10 mois par an pour que ce contrat soit rentable. Donc il est réservé à des gens qui sont volontaires et qui sont évidemment très employables.
L'objectif aujourd'hui en termes de nombre de salariés?
Alors l'objectif, c'est d'arriver à peu près à 4 à 5% des intérimaires, ce qui se pratique à peu près en Hollande par exemple, ce qui représenterait à peu près 20 000 emplois.
Ça se passe comment? On va voir son agence d'intérim en disant voilà, bonjour, moi je vais être CDIsé en intérim?
Alors non, on dit pas ça, on dit qu'on cherche un travail, on dit qu'on sait faire tel ou tel type de métier, qu'on a tel ou tel type de compétences, telle qualification, telle expérience, et à ce moment-là, il y a souvent un début qui se passe en intérim pour
classique.
Pouvoir juger la personne clairement, et puis ensuite, il peut y avoir transformation en CDI intérimaire. Et il y a beaucoup de jeunes que ça intéresse, parce que le CDI leur permet aussi d'avoir accès au crédit, au logement, alors que malheureusement, l'intérim est encore jugé par les bailleurs et par les banquiers comme étant un problème.
Alors je vais être très honnête, j'ai découvert ce CDI intérimaire en préparant l'émission. On en parle quand même pas beaucoup, il est assez peu connu aujourd'hui.
Il est peu connu parce qu'il est nouveau. On l'a créé il y a à peu près, il est en route depuis moins de 18 mois maintenant.
On va communiquer dessus quand même à un moment.
On va communiquer, regardez, on en profite, là justement grâce à vous, on en profite et ça devrait être un succès parce que incontestablement ça répond aux besoins des jeunes notamment, mais aussi d'autres personnes qui sont très employables. Ça répond aux besoins de nos clients qui sont très heureux d'avoir des intérimaires qu'ils connaissent et de les avoir de façon plus récurrente. Et nous, on est très heureux parce que ça permet de fidéliser les intérimaires et d'investir en matière de formation professionnelle sur ces intérimaires-là. Parce qu'on est sûr qu'ils restent.
En termes de réforme, que pourrait faire selon vous encore le gouvernement? Alors, on a parlé d'alléger le coût du travail, d'alléger le code du travail. Quels seraient les autres leviers sur lesquels le gouvernement pour encore s'appuyer?
Il y a évidemment l'assouplissement du code du travail, ça c'est une évidence. Il y a aussi la façon dont l'indemnisation du chômage doit être revue en France, la façon dont les chômeurs sont indemnisés et encadrés, et insuffisamment encadrés, pose incontestablement un problème. Et si on devait faire bouger les choses et améliorer le chômage, il faudrait aussi passer par une motivation plus importante, une incitation plus importante pour les chômeurs à trouver des emplois dans des conditions qui leur permettent d'avoir un véritable écart entre la rémunération du travail et la rémunération du non-travail.
Vous êtes également pour des sanctions en cas de non-présentation ou en cas de refus de poste proposé?
Nous, ce que nous constatons dans les agences, c'est que beaucoup de personnes refusent des missions qu'on leur propose, alors qu'on sait qu'ils sont parfaitement en mesure de les assumer, de les assurer. À l'évidence, s'il y avait un encadrement plus important, un accompagnement des chômeurs plus important, incontestablement, il y aurait plus de motivation et plus de résultats.
Aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire face à un refus de poste proposé de
non, d'emploi? Non, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Il y a même des intérimaires qui arrêtent des missions alors qu'ils ont parfaitement les capacités pour les conduire, pour les continuer, parce qu'ils ont un projet personnel qui les conduit à arrêter de travailler.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Roux, donc ce soir pour analyser notamment ces chiffres de l'emploi. Je rappelle ce léger mieux, en tout cas cette stabilisation sur le front de l'emploi selon les chiffres publiés ce soir, les chiffres concernant le mois de juin. Et puis on retiendra donc l'emploi intérimaire qui commence à se porter un peu mieux et donc normalement à en croire ce que l'on nous dit, cet indicateur avancé de l'emploi sur les 6 à 12 mois, eh bien, on devrait voir une conséquence sur la courbe de l'emploi dans les 6 prochains mois. Merci beaucoup François Roux, délégué général de Prisme Emploi. Merci. Vous restez avec nous sur BFM Business. À suivre dans quelques instants le rendez-vous proposé du lundi au jeudi, tout cet été par Emmanuel Lechypre, la librairie de l'écho. Et puis quant à moi, j'aurai également le plaisir de vous retrouver demain dès 12h30. Passez une excellente soirée. À demain.